Le premier chapitre est consacré à la physiopathologie. Le choc est une situation de bas débit circulatoire généralisé, de caractère prolongé. Bas débit qui va induire un déficit d'apport tant dans le domaine de l'oxygène que des nutriments au niveau cellulaire. Et cet apport devient nettement inférieur aux besoins qui sont dits de la cellule à rentrer dans une situation d'hypoxie, situation dans laquelle l'apport d'oxygène est insuffisant et les chaînes des métaboliques s'arrêtent au stade de la glycolyse anaérobie avec accumulation du produit sous forme essentiellement d'acide pyruvique et de cette voie terminale que constitue l'acide lactique. En aucun cas, le cycle de Krebs ne peut être amorcé par l'introduction de l'acide pyruvique sous forme d'acétylcoenzyme A. Pour comprendre la physiopathologie du choc, il est nécessaire de faire appel à une modélisation. Modèle très simple, à trois compartiments, constitués de l'élément central qui est la pompe, pompe elle-même alimentée par un réservoir d'amont, et cette pompe distribuant son flux vers un système de tuyauterie en aval qui représente tout à fait le système vasculaire périphérique. Alors le réservoir d'amont est très intéressant, il peut être comparé un peu à la tonne qu'on rencontre dans un véhicule d'incendie en amont de cette pompe. Il est essentiellement constitué des réservoirs d'amont, les réservoirs d'amorçage de la pompe cardiaque sont essentiellement constitués par les veines caves supérieures et inférieures. Quand on se concentre sur le système d'aval, à savoir le système vasculaire périphérique, qui présente des propriétés de résistance à l'écoulement, résistance qui sont un élément essentiel de la mise en pression sous l'effet de la pompe. Dans un tel dispositif en circuit fermé, la pression artérielle ou tension artérielle, qui correspond à la pression qui règne dans le système de distribution, de tuyauterie, est directement dépendant d'une part du générateur, c'est-à-dire de la pompe, et du débit qu'elle engendre, lequel débit dépend dans un système pulsatile comme la pompe cardiaque, à la fois de la fréquence et du volume éjecté par cette pompe. Le volume éjecté dépend lui-même, évidemment, des qualités de remplissage de la pompe. Et ça nous ramène au système capacitif d'amont, savoir les veines caves et leur niveau de remplissage. En aval, eh bien, c'est le système résistif artériel, périphérique, essentiellement constitué d'anneaux musculaires, qui va gêner des pertes de charge, autrement dit des résistances au frottement, élément indispensable pour constituer une pression. Donc il faut à la fois un volume se déplaçant dans une tuyauterie et à la fois des résistances au frottement générées par cette tuyauterie. Ainsi, la loi générale qui relie la pression artérielle est tout à fait comparable à celle qu'on rencontre en électricité sous forme de la loi de Ohm, c'est-à-dire que la tension artérielle ou tension électrique correspond au produit débit liquidien ou débit électrique que multiplient les résistances à l'écoulement de ce débit. Cette modélisation tricompartimentale, réservoir, pompe centrale, tout l'établissement de tuyauterie permet de retrouver les trois principales familles d'états de choc. Lorsque la pompe est défaillante, il s'agit typiquement d'un choc de type cardiogénique. Lorsque l'amorçage de cette pompe par insuffisance de liquide sanguin dans le réservoir est la cause de la détresse, on assiste à un choc hypovolémique vrai. La masse sanguine de 75 ml/kg ne peut être maintenue. lorsque la tuyauterie est touchée, l'établissement est touché, il s'agit d'un défaut de distribution, on parle alors de choc hypovolémique relatif, choc distributif ou mieux encore de choc vasoplégique. Face à une situation d'hypotension prolongée, l'organisme réagit de trois façons principales dans la mesure où possibilités existent. Alors, il augmente d'une part la contractilité, il est bien difficile d'en juger l'efficacité par un simple examen clinique. Il augmente la fréquence de la pompe cardiaque, ce qu'on observe sous forme d'un pouls rapide. Il augmente enfin les résistances vasculaires périphériques par une vasoconstriction qui porte sur les artérioles, essentiellement dans les territoires non vitaux, tels que la peau, les muscles, et ces vasoconstrictions cliniquement apparentes sous forme de marbrure, d'une peau pâle, froide. Le choc hypovolémique vrai voit son origine dans la perte d'une part de masse sanguine, qu'elle soit consécutive à une perte simultanée de plasma et de globules comme on l'observe dans les hémorragies massives, qu'il s'agisse d'une perte isolée de plasma comme on l'observe lors des brûlures étendues, qu'il s'agisse d'une perte de liquide, d'eau essentiellement, et de ces minéraux sans en perte de protéines comme on l'observe au cours des déshydratations, qu'elles soient d'origine cutanée, par voie urinaire, ou par voie digestive, avec des vomissements ou des diarrhées. Dans tous les cas de figure, le réservoir d'amossage de la pompe cardiaque perd du volume, l'amorçage de la pompe devient insuffisant, d'où un défaut de remplissage, et donc un défaut d'éjection, comme en est la preuve la diminution du volume d'éjection à chaque battement, volume d'éjection systolique. Il en résulte une baisse de la pression artérielle qui peut conduire à l'arrêt circulatoire dans un phénomène de désamorçage de la pompe. Cliniquement, on observe une baisse de la pression artérielle systolique alors que la pression artérielle diastolique est longtemps conservée, d'où un pincement de la différentielle, une tachycardie réactionnelle, et puis des sinus à constriction avec une peau froide, pâle, des marbrures, les veines sont plates, toutes des difficultés à pouvoir avoir un abord veineux de qualité, et les répercussions cérébrales sous forme de soif, caractéristiques de la situation d'hypovolémie, mais également des signes de bas débit avec agitation ou prostration. Le second type de choc est représenté par le choc cardiogénique. Défaillance spécifique de la pompe, soit par atteinte du muscle cardiaque dans le cadre de l'infarctus étendu, dans le cadre des myocardites aiguës virales, dans le cadre également de certaines intoxications comme les cardiotropes. Le muscle lui-même est défaillant et n'arrive plus à produire le débit nécessaire. On décrit également d'autres variétés où le muscle n'est pas atteint, mais il s'agit de phénomènes obstructifs. Alors soit l'embolie pulmonaire qui est responsable d'un obstacle à l'éjection du ventricule droit, soit par exemple la tamponade, phénomène de tamponade qui écrase littéralement les deux ventricules en constituant un obstacle au remplissage, et qui sont eux-mêmes rentrés globalement dans le contexte des chocs cardiogéniques. La réponse physiologique à cette défaillance pompe et à ce bas débit cardiaque, avec surcharge sanguine en amont de la pompe, avec débordement du territoire veineux central, la réponse physiologique c'est d'une part d'accélérer la pompe, donc sous forme d'une tachycardie, de conduire à une vasoconstriction périphérique pour essayer de maintenir la tension, mais avec un effet délétère net sur la puissance cardiaque. Les symptômes sont connus, une baisse de la pression systolique alors que la pression diastolique, encore une fois du fait de la vasoconstriction, est stable, la différentielle est donc pincée. Ce type de choc s'accompagne fréquemment de douleurs thoraciques et de signes de stase, soit au niveau cardiaque droit avec une turgescence veineuse, en particulier jugulaire, des veines qui sont bien gonflées, des douleurs hépatiques, ou alors, pour ce qui concerne la stase à gauche, des phénomènes de surcharge pulmonaire avec des signes d'œdème pulmonaire. Une troisième variété est représentée par le choc hypovolémique relatif ou choc vasoplégique, choc distributif. Dans tous les cas de figure, le primum movens, c'est l'altération du tonus vasomoteur des artères périphériques. Donc c'est cette perte de la vasoconstriction physiologique qui se transforme en vasodilatation exagérée qui est à l'origine de l'hypotension. On la rencontre dans l'allergie sévère, le choc anaphylactique, autrement dit, dans la phase initiale du choc septique, mais on peut le rencontrer également par intoxication, par des vasodilatateurs. Dans tous les cas de figure, la vasodilatation représente le phénomène pathologique, conduisant donc à un décalage entre la masse sanguine réelle, qui est toujours de 75 ml par kilo de poids, et le contenant capable d'emmagasiner des quantités beaucoup plus importantes, ce qui se traduit par un effondrement des pressions de remplissage, les veines caves sont très peu remplies, la réaction physiologique de l'organisme n'est représentée que par la tachycardie, il n'y a aucune possibilité de vasoconstriction périphérique, puisque là est la maladie. Sur le plan symptomatique, la pression artérielle systolique comme la diastolique baisse de manière simultanée puisqu'il n'y a pas de réponse vasoconstrictrice. La PA différentielle est donc normale, conservée, voire élargie. La peau est chaude, elle est rouge. Les conjonctives sont injectées, autant de témoins de la vasodilatation périphérique. Certains chocs hypovolémiques relatifs sont de mécanismes plus complexes. Car la vasoplégie, la vasodilatation extrême, n'est pas le mécanisme isolé, même si il est essentiel. Ainsi, dans le choc anaphylactique, la vasodilatation artériolaire est compliquée d'un phénomène d'hyperperméabilité capillaire, tout simplement parce que les cellules capillaires, les cellules endothéliales capillaires, ne sont plus jointives. Et ceci entraîne des fuites plasmatiques à l'origine des phénomènes d'œdème, en particulier d'œdème de Quinck ou d'œdème généralisé, qu'on rencontre régulièrement dans les chocs anaphylactiques. À ces deux phénomènes s'ajoutent assez régulièrement, en particulier lorsque l'allergène est introduit par voie intraveineuse, un phénomène authentique de sidération myocardique, bien observé en échographie, qui ajoute donc une composante d'incompétence myocardique, choc cardiogénique à ce phénomène de choc anaphylactique. Deuxième variété, le choc septique, est également un choc complexe. La vasodilatation artériolaire avec hyperperméabilité capillaire par l'apparition d'une distension entre les cellules endothéliales des capillaires est aussi à l'origine de fuite plasmatique, mais s'ajoute à ça des phénomènes d'occlusion capillaire par constitution de microthrombies. Dans sa phase inflammatoire, le sang hypercoagulable, c'est ce qu'on retrouve à une autre échelle dans les phénomènes de coagulation intravasculaire disséminée. À ces quatre phénomènes s'ajoute là encore une dépression myocardique liée à un facteur dépresseur myocardique mal connu, ce qui explique l'apparition successive de deux phases. Dans le choc septique initial, une phase hyperkinétique avec vasoplégie, œdème, tachycardie et hyperdébit cardiaque compensateur. Et puis quand le facteur de dépression myocardique a fait son œuvre, le choc cardiogénique s'installe avec chute tensionnelle encore plus sévère, tableau d'incompétence myocardique qui se rajoute au phénomène d'hypovolémie relative. Ce nouveau chapitre est consacré à la clinique et en particulier à la détection des signes de gravité. Des trois détresses vitales, la détresse circulatoire n'est pas la plus évidente à détecter. Sa symptomatologie se résume souvent à un malaise qu'on qualifie de malaise grave, parfois des troubles de la conscience ou une dyspnée. Et donc c'est par l'atteinte d'une des deux autres fonctions vitales, ou des signes tout à fait banaux, qu'on repère cette détresse. Dès l'approche de la victime, les signes neurologiques sont régulièrement apparents. Sur le plan comportemental, c'est tantôt une prostration, tantôt des phénomènes d'agitation, éventuellement par phase, des sensations de mort imminente, qui sont révélateurs d'un phénomène de bas débit cérébral. Au même titre, l'apparition d'une soif est un symptôme qui oriente vers un état de choc hypovolémique et tout particulièrement une hémorragie ou une déshydratation. C'est bien entendu extrêmement intéressant dans la détection des hémorragies occultes, hémorragies internes. Au niveau cutané, la majorité des chocs, on l'a vu, sont des chocs de type froid, c'est-à-dire avec vasoconstriction. Cette vasoconstriction se révèle au niveau cutané par l'apparition de marbrures, l'abaissement de la température de la peau qui apparaît donc froide, pâle. À l'inverse, dans les chocs vasoplégiques, la vasodilatation est au premier plan et la peau apparaît généralement chaude, rouge. Dans l'examen des poupées aphériques, on remarque des anomalies de fréquence, d'amplitude, voire de régularité, en se concentrant sur le pouls artériel et sur le pouls d'une ou deux grandes artères telles que les carotides ou les fémorales. D'abord, le pouls est rapide. Les tachycardies, qui on le verra, sont proportionnelles à la gravité du choc. Exceptionnellement, dans le cadre des hémorragies massives, qui amène le patient au désamorçage, on observe à l'imminence du désamorçage une bradycardie dite paradoxale témoigne d'un réflexe primitif protégeant le cœur pendant quelques minutes en le ralentissant pour lui permettre de se remplir. Sur le plan de l'amplitude, le pouls radial apparaît plus souvent absent, parfois filant. Et c'est également, on verra, un critère de gravité. Il est essentiel de pouvoir comparer pouls radial et l'amplitude au niveau du pouls carotidien et du pouls fémoral. Enfin, la mesure tensionnelle, cette pression artérielle systolique est basse et on notera de manière soigneuse les valeurs de systolique, diastolique et différentielle. Le temps de recoloration cutanée, TRC, est un paramètre qui est inexploitable en urgence, à l'inverse des situations d'accueil hospitalier. En urgence préhospitalière, les patients sont constamment dans des ambiances hostiles, froides, ils sont stressés. La vasoconstriction a bien d'autres raisons d'apparaître en dehors de tout état de choc. Les médecins compléteront leur examen par la palpation prolongée du pouls fémoral de manière à rechercher une oscillation, une variation respiratoire de l'amplitude de ce pouls qui, lorsqu'elle existe, témoigne d'un défaut de remplissage du cœur, soit du fait d'un phénomène de tamponnade ventriculaire, soit du fait d'une hypovolémie sévère. Lorsque le médecin détecte une dyspnée, il est essentiel pour lui de pratiquer une auscultation pulmonaire qui, dans un cas, peut trouver des râles crépitants aux bases ou beaucoup plus diffus associés à une diminution de la saturation artérielle en oxygène. C'est alors évocateur d'une défaillance cardiaque gauche dans le cadre d'un choc cardiogénique. Mais en absence d'anomalie auscultatoire, la dyspnée doit être rapportée à l'existence et à l'intensité de l'acidose métabolique de type lactique. C'est la dyspnée cinématérienne. Lorsque le médecin détecte des signes d'insuffisance ventriculaire droite, telles la turgescence jugulaire, l'hépatomégalie douloureuse, les hépatalgies, ces phénomènes sont évocateurs tantôt d'une défaillance isolée du ventricule droit, comme dans l'infarctus du VD, tantôt de phénomènes obstructifs, soit obstacle au remplissage dans la tamponade péricardique sanguine ou liquidienne, ou gazeuse, soit une obstruction à l'éjection du ventricule droit, comme dans l'embolie pulmonaire. On parle alors de choc obstructif. Certains symptômes sont témoins de la gravité du choc et il est essentiel de les détecter. D'abord le pouls trop rapide, supérieur à 120, ou trop lent. C'est surtout la discordance entre le pouls radial qui est absent et le pouls carotidien encore présent qui témoigne de la gravité. De même, une tension artérielle systolique inférieure à 80, ou pire, une pression artérielle est totalement imprenable, un pouls irrégulier, l'apparition d'autres détresses comme la détresse respiratoire, les troubles de la conscience. Dans le cadre du diagnostic médical, certains symptômes ont une forte plus-value diagnostique, en particulier la tension artérielle différentielle, qui on l'a vu, représente la différence entre PA systolique et PA diastolique. Dans la mesure où la PA diastolique est directement dépendante de la qualité de la vasoconstriction, cette PA diastolique comme cette PA différentielle révèlent et font le distinguo entre les chocs avec vasoconstriction et les chocs avec vasodilatation. On a vu la valeur diagnostique de la soif pour témoigner de l'existence d'une hypovolémie vraie. Enfin, les signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche orientent pour la droite vers des chocs obstructifs essentiellement, pour la gauche vers des chocs cardiogéniques par défaillance ventriculaire. Les gestes de premier secours assurés par les secouristes s'appuient sur trois piliers fondamentaux. D'une part, l'hémostase, arrêter l'hémorragie lorsqu'elle est accessible par compression directe manuelle et prolongée de 10 minutes, temps nécessaire pour qu'une coagulation de qualité soit opérante. Cette compression peut être relayée par l'emploi de pansements compressifs qui seront surveillés et transformés en nouvelles compressions au cas où l'hémorragie reprenne sous le pansement. Enfin, l'utilisation du garrot ne doit surtout pas être diabolisée. C'est une méthode efficace quand on emploie des garrots de type tourniquet ou de type pneumatique. En cas d'échec des méthodes précédentes, ou lorsque les ressources en secouriste ne nous permettent pas de maintenir la compression, par exemple en situation de catastrophe. Deuxième pilier fondamental, le positionnement en décubitus dorsal, éventuellement jambes surélevées, mais sur indication, sur prescription médicale. Lorsqu'il y a détresse respiratoire, c'est le positionnement dans lequel la personne se sent le mieux, et c'est en général la position demi-assise. Enfin, le sujet inconscient sera placé, bien entendu, en PLS. Troisième pilier, l'oxygénation, qui est assurée par inhalation au masque à haute concentration, ou par bas-vue, et par ventilation artificielle, si la ventilation est jugée inefficace ou absente, ce qui est fréquemment le cas du patient comateux. La mise en condition de la victime débute par la mise en place d'une première voie veineuse périphérique de bon calibre, complétée d'une deuxième voie veineuse périphérique en cas d'hypovolémie. Il n'existe aucun intérêt à utiliser des voies veineuses centrales en termes de débit de remplissage. Par contre, les voies fémorales et sous-clavières sont tout à fait intéressantes lorsque l'hypovolémie sévère gêne l'abord veineux périphérique. La prise en compte du patient est complétée par un monitorage. Il se base sur la surveillance, bien entendu, du pouls fémoral, mieux encore que le pouls radial, l'utilisation de tensiomètres automatiques basés sur des méthodes oscillométriques, ou mieux, sur des méthodes sanglantes, le contrôle de la fréquence cardiaque, et l'oxymétrie pulsée, en étant conscient du fait que le bas débit périphérique gêne parfois considérablement la mesure du signal de faible qualité. Plusieurs gestes simples permettent de progresser dans l'orientation diagnostique. D'une part, la pose du sonde gastrique, qui permet d'authentifier l'existence d'une hémorragie intragastrique. Mais il faut être vigilant sur le fait que l'insaignement duodénal n'est parfois pas détecté. Deuxième mesure, la mesure de la microhématocrite ou de l'hémoglobine par HemoQ, par dispositif HemoQ, en étant conscient qu'il s'agit de mesures de concentration dans les deux cas de figure et que à la phase initiale d'une hémorragie massive, il n'existe pas d'anomalie de concentration du rapport élément figuré sur son total et que seul l'un remplissage simultané et parallèle à la défaillance permet de repérer une baisse de l'hématocrite et d'hémoglobine sanguine. Troisième examen complémentaire utile de réalisation plus complexe, bien que son apprentissage soit facilité par la pédagogie FAST. Cette échographie abdominale et thoracique permet de dégrossir l'examen clinique et de repérer un saignement intra-abdominal, une tamponnade ou des signes indirects d'hypovolémie en objectivant des cavités cardiaques quasi vides, une veine cave inférieure aplatie. Enfin, dans les situations de diagnostic difficile, un test de remplissage est un élément d'orientation pour distinguer un choc hypovolémique qui va répondre au test de remplissage d'un choc cardiogénique qui ne va pas répondre. Il consiste à administrer de façon rapide 200 ml de solution macromoléculaire en une dizaine de minutes. Une autre méthode équivalente consiste à réaliser un équivalent d'autotransfusion en surélevant les deux membres inférieurs, voire en basculant l'ensemble du corps du patient en train d'Ellenbourg, donc en position déclive, les pressions artérielles étant mesurées avant et après test. Il est indispensable de veiller à la célérité de l'accueil hospitalier. L'évacuation des cas les plus urgents bénéficie de l'utilisation de l'hélicoptère qui permet de comprimer cette durée d'évacuation. De même, l'accueil hospitalier des chocs hémorragiques non contrôlés bénéficie au mieux d'un accueil direct au bloc opératoire lorsque la chirurgie d'hémostase ou de décompression est nécessaire. Il faut veiller au fait que les pertes de temps peuvent survenir lors d'explorations radiologiques qui ne sont pas nécessairement justifiées lorsque le diagnostic est évident. La prise en charge d'un choc hémorragique comporte deux dogmes. D'une part, la priorité à l'hémostase. Quelle que soit la méthode, il faut arriver à assécher l'hémorragie. On a vu la compression directe, l'importance des pansements compressifs en relais de cette compression directe et l'importance de la surveillance. Les personnels médicaux et paramédicaux pourront utiliser des pincettes hémostatiques de manière à assurer une hémostase ciblée sur un tronçon sanguin hémorragique. Enfin, cas d'échec des autres méthodes, le garrot artériel doit être systématique en privilégiant le tourniquet ou les garrots pneumatiques, beaucoup moins douloureux. Deuxième priorité, l'évacuation. Il est prouvé par nombreuses études que le respect de l'heure d'or, la golden hour, assure une meilleure survie aux patients choc hémorragique. Autrement dit, il est indispensable que l'ensemble des soins se fasse en roulant, qu'on s'oriente systématiquement vers la jonction avec les équipes médicales à mi-route. Enfin, qu'il est essentiel de développer un accès direct à la chirurgie d'hémostase en réduisant ou en supprimant le temps radiologique. Les compléments de soins assurés tout en poursuivant l'évacuation sont basés d'une part sur l'utilisation du remplissage vasculaire dont l'unique objectif est d'empêcher la survenue d'un désamorçage lorsqu'il existe une hypovolémie, que la qualité du solutés de remplissage importe moins que son débit et que la réponse est surtout évaluée sur la fréquence cardiaque plus que la pression artérielle longtemps stabilisée par le phénomène de vasoconstriction. L'objectif tensionnel est fixé à 80 mm pour le sujet standard, à 100 mm lorsqu'il existe un traumatisme crânien associé. L'usage des vasoconstricteurs vise à maintenir cette pression artérielle stable de 80 ou 100 mm sans excès de remplissage. Le remplissage massif étant à l'origine d'une part d'une hypothermie, d'une acidose et d'une dilution des facteurs de coagulation particulièrement délétères. On emploie des vasoconstricteurs malléables comme l'éphédrine qui peut être utilisée en titration, la noradrénaline ou l'adrénaline utilisable en pousse seringue, en particulier en cas de choc vasoplégique type par traumatisme spinal ou lorsqu'il existe un traumatisme crânien associé et que la tension de référence ne peut être atteinte. Lors de la prise en charge d'un patient au choc cardiogénique, l'installation est réalisée le plus souvent en position demi-assise du fait de l'existence simultanée d'une dyspnée. On veillera à contrôler les volumes portés, le débit des solutés intraveineux pour éviter toute surcharge volumique, puisque ces sujets sont généralement en œdème pulmonaire, associés à une oxygénothérapie de manière à assurer une hématose correcte, et d'employer un traitement inotrope à base de dobutamine au pousse-seringue par palier croissant, en y associant un vasoconstricteur de type dopamine, noradrénaline ou adrénaline. Deux thérapeutiques sont généralement incontournables. D'une part, la réalisation précoce d'une ventilation artificielle pour corriger l'hypoxémie et surtout favoriser l'éjection ventriculaire en créant un gradient de pression entre le thorax et les zones périphériques, en particulier l'abdomen. Le traitement étiologique est essentiel dans le sauvetage d'un choc cardiogénique, qu'il s'agisse de la thrombolyse en cas d'ischémie myocardique ou pulmonaire, qu'il s'agisse de l'emploi d'antiarythmiques ou du choc électrique externe en cas de dysrythmie mal tolérée, qu'il s'agisse d'une ponction péricardique associée au remplissage en cas de tamponade. Lors d'un choc anaphylactique, l'objectif thérapeutique est de supprimer la vasodilatation pathologique. Dans un premier temps, on installe le patient dans la position où il se sent au milieu et en général, il s'agit du décubitus dorsal et associé à une surélévation du membre inférieur à condition qu'il n'existe pas de dyspnée de type asphaltiforme. Le remplissage vasculaire est abondant, il est assuré sur protocole par un sérum salé à l'exclusion des macromolécules, même si on commence à vouloir utiliser des hydroxyéthylamidons. Chez sujets âgés, susceptibles de mal tolérer les volumes de remplissage, il est indispensable de limiter ce remplissage à environ 500 ml et de privilégier la troisième phase qui est l'utilisation des vasoconstricteurs. Dans tous les cas de figure, on emploie l'adrénaline après dilution, 1 mg dilué dans 10 ml de sérum physiologique par procédure de titration, millilitre par millilitre, sous contrôle tensionnel. Le traitement vasoconstricteur et le remplissage sont généralement associés à des traitements adjuvants. Bien entendu, l'arrêt de l'administration de l'antigène lorsque une perfusion intraveineuse de médicaments antigéniques est en cause. Un complément corticoïde par l'emploi de méthylprednisolone à 2 mg kg ou 500 mg IV d'hydrocortisone. Enfin, si nécessaire, l'emploi de bêta-mimétiques pour corriger une dyspnée asthmatiforme.